podcasts d'AFDS.tv, aux frontières des séries. Une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier. Les dossiers d'AFDS.tv, Alexandre Marlier.
200 ans dans le futur, la Terre est devenue invivable en raison de la pollution, des guerres et conflits politiques en tout genre. Les êtres humains vivent dans des stations spatiales en orbite terrestre, mais beaucoup d'enfants nés dans les stations souffrent d'un mal mystérieux qui les emporte à l'âge de 9 ans. Une théorie précise que cette maladie est due à l'absence de nature et par conséquent des microbes bénéfiques à l'organisme. La mission appelée Projet Eden a pour but d'explorer une nouvelle planète située à 22 années-lumière de la Terre et de préparer l'arrivée de nouveaux colons, notamment des familles avec des malades. Earth 2 est donc un feuilleton de science-fiction américain créé par Billy Ray, Michael Dugham, Carol Flint et Mark Levin. Il a été diffusé sur NBC de novembre 1994 à juin 1995. Seulement une seule saison de 22 épisodes a été produite. Il y a quelques personnages dans la série et autant d'acteurs, mais seulement trois d'entre eux sortent véritablement du lot. Debra Farentino, qui joue le rôle principal, est apparue notamment dans Trois hommes sur le Green et La famille Green. Elle reste donc dans le vert. Clancy Brown est probablement celui qui a la filmographie la plus longue. Son rôle le plus connu du grand public est Monsieur Krabs dans Bob l'éponge, mais il ne lui donne que la voix. Il était également l'inquiétant frère Justin Crowe dans Carnivalet, la caravane de l'étrange. Récemment, il a incarné Kelvin Joe Inman dans Lost, mais c'est probablement le visage de Rebecca Gayheart qui vous dira quelque chose. Depuis Earth 2, elle a joué dans Scream 2, Wasteland et elle était Betty Romer dans la première saison de Dead Like Me. Alors, pour vous présenter aujourd'hui Earth 2, Sarah Sepulcre, et pour en discuter avec nous aujourd'hui, Tilman Villette.
Bonjour.
Et Nathanaël Picasse.
Bonjour à tous.
Bon, je vois que vous avez déjà l'air super intéressé par cette série, ça commence bien.
Mais si, mais si.
Alors, c'est donc une série de science-fiction, ça je crois que vous l'avez compris. Le premier épisode se déroule dans les stations, puisqu'ils ne sont pas encore partis. On vit donc le moment pré-départ et puis le moment du départ. Et évidemment, ça se corse déjà parce que tout le monde n'est pas d'accord avec cette mission de colonisation et donc il y a des attentats prévus. Donc ils partent un petit peu plus tôt que prévu, ce qui explique qu'ils partent sans médecin confirmé, par exemple. Et puis alors, directement après 5 à 10 minutes d'épisode, ils rentrent en cryogénisation, puisque c'est vrai que vous savez tous que dans le futur, on voyage à la vitesse de la lumière, mais que 22 années-lumière, il faut dormir pendant 22 ans, histoire de ne pas vieillir. Et donc, on a l'ellipse de ses 22 ans, fort heureusement. Et quand ils se réveillent, ils sont à proximité de cette Terre, que j'appellerai Terre 2. Je vais pas me faire constamment le titre à l'anglais,
si vous permettez.
Voilà. Tu le fais très bien, mais bon, pitié. Et en fait, directement, ils se rendent compte qu'il y a un problème technique et doivent évacuer le vaisseau. Or, ça ressemble un peu à la débâcle du Titanic. Tout le monde rentre dans des capsules de sauvetage et toutes les capsules s'en vont. C'est la première fois que je vois un vaisseau avec des capsules de sauvetage et je me suis dit que c'était pas si con que ça comme idée d'ailleurs. Enfin, soit. Et donc, comme tu l'as dit dans l'introduction, le vaisseau s'écrase. Les containers avec le matériel se dispersent sur la planète et surtout les capsules. On va suivre en fait majoritairement les membres de deux capsules qui vont se rejoindre.
On peut quand même signaler que quand on voit le générique de début de la totalité de la série et quand on voit le premier épisode, on se dit on va se retrouver devant une série où tout va se passer dans une capsule spatiale. Et en fait, pas du tout. Jamais, à part dans les deux premiers épisodes, on est dans une capsule spatiale, justement.
Oui, on est toujours sur cette deuxième Terre ou cette planète à explorer, ce qui n'est pas inintéressant en soi, je trouve.
Et ce qui coûte moins cher au niveau des effets spéciaux.
Surtout, effectivement, mais c'est pas inintéressant. Et d'ailleurs, tiens, je voulais simplement dire, ce premier épisode, au niveau des effets spéciaux, tient totalement la route.
Le côté crash comme ça sur une Terre inhabitée et tout, ça fait un peu Lost, en fait, finalement. J'ai l'impression que l'idée a été reprise par la suite, non ?
Probablement, mais je pense que c'est une manière comme une autre de faire un huis clos, si tu veux.
Enfin,
et donc, c'est assez intéressant. Mais c'est vrai que l'idée au départ me semble, ben voilà, ça change un peu d'espèce opéra et donc ça peut donner quelque chose de chouette à mon avis. Donc le but de cette équipe qu'on va suivre, c'est de rejoindre ce point qu'ils ont défini depuis le début de la mission, qu'ils appellent la Nouvelle Pacifica et dans lequel ils vont pouvoir monter la colonie parce qu'en fait il y a un vaisseau qui démarre directement après eux et donc ils savent que dans 17 mois exactement, 250 familles de colons, je crois que c'est 2000 ou 5000 personnes en tout, vont débarquer sur la Terre et qu'il y a intérêt que les choses soient prêtes. Et donc, ils doivent rejoindre ce point habitable, entre guillemets.
Donc, c'est pas vraiment un space opéra, c'est plus la conquête de l'Ouest, finalement.
C'est tout à fait ça, ouais. Alors cette Terre, elle est censée être habitable et elle l'est, effectivement, comme prévu, mais par contre, eux ne sont pas du tout habitués à vivre sur une planète normale, ils sont habitués à vivre dans des stations qui sont des univers dans lesquels il n'y a pas de microbes, et donc d'où le problème des enfants, où il fait 28 degrés en permanence, où on n'a jamais vu une plante de sa vie, où on ne doit pas chercher sa nourriture, et donc ils doivent apprendre tout ça. Ils apprennent aussi ce que c'est l'hiver, et que en gros, quand c'est l'hiver, on a froid, et ils n'avaient pas prévu, par exemple, des manteaux, ils sont cons quand même, et donc ils doivent apprendre à chercher la nourriture. La première fois qu'il pleut, ils sont tous stressés, ils analysent vite la pluie pour voir si elle est toxique, etc. Donc ça, c'est un peu rigolo.
Finalement, ce sont des êtres humains qui réapprennent à être des êtres humains, en fait.
Tout à fait.
Est-ce que ça paraît pas un peu étrange, justement, que des êtres humains pouvant construire des navettes spatiales, etc., ne comprennent pas la pluie ou des choses comme ça? C'est un peu un décalage quand même, en fait.
C'est un décalage, et c'en est pas, dans le sens où ils sont pas tout à fait sûrs. Ils ont envoyé des robots sondes avant, donc ils savent qu'il y a une atmosphère, etc., mais ils sont jamais tout à fait sûrs des éléments réels face auxquels ils vont être mis. Ils disent que la pluie peut être toxique, par exemple, pour une raison X ou Y. Ce côté-là scientifique est quand même assez bien respecté, dans le sens où effectivement, on va manger des choses, ils les testent, etc., et donc c'est assez intéressant. Par contre, si elle est habitable, elle est pas du tout déserte, comme c'était prévu. Ça aurait été trop beau. Il y a des terriens. Alors évidemment, faites attention, les terriens, c'est pas les êtres humains. Ceux qui sont les êtres humains, on les appelle les humains, et ceux qui sont les terriens, ce sont des personnages qui vivent sur cette terre, qui vivent dans les souterrains d'ailleurs, qui communiquent par télépathie ou en rêve, c'est pas toujours très simple, qui ont une constitution à la fois, ce sont des végétaux, des minéraux et des animaux, donc ils ont un ADN assez complexe.
Ils ont un côté assez mystique aussi, en
plus. Ils ont un côté, ouais, très très mystique, donc on est face à un peuple intelligent, à un peuple qui a été décimé, qui vit en harmonie avec la planète. Une harmonie d'ailleurs que les humains peuvent mettre en danger d'ailleurs. Mais malgré tout, c'est pas un peuple guerrier, donc on voit les communications qui s'établissent entre ces deux groupes.
Mais ils sont pas les seuls à vivre sur cette terre.
Non. Alors il y a aussi des êtres un peu baveux, comme ça, grands, manifestement moins intelligents, moins organisés, qui volent tout ce qui passe, qui s'appellent les Grindlers. On ne sait pas très bien si ce sont des bêtes ou si ce sont des êtres intelligents, mais en tout cas, ils vivent en semi-société.
Ceux qui auront vu Labyrinthe sauront d'où vient l'inspiration de ces personnages, oui, d'ailleurs.
C'est Ludo, c'est vrai, c'est Ludo de Labyrinthe. Je vois qu'on a les mêmes références, Alex. Alors, il faut aussi savoir que la planète a servi de poubelle pour les êtres humains, c'est-à-dire qu'on y a envoyé évidemment les criminels bannis, et notamment Gale, qui est très dangereux parce que c'est un meurtrier qui a réussi à prendre l'aval et à tuer tous les autres meurtriers, donc c'est un meurtrier au carré, si vous voulez. On apprend petit à petit qu'il y a d'autres missions scientifiques qui ont déjà mis les pieds sur cette planète, et qu'il y a aussi des super soldats, ça fait très X-Files. Donc finalement, cette planète, elle est vraiment pas du tout déserte, si vous suivez mon raisonnement, et surtout, elle est très fort peuplée d'êtres humains qui sont venus là avant, et que personne ne le sait, parce qu'évidemment, ça s'est fait dans le secret, il y a des complots gouvernementaux.
C'est un peu tiré par les
cheveux. Je reviendrai là-dessus. Oui, on se dit, tiens, on part sur l'idée d'une exploration d'une Terre et on en arrive sur quelque chose qui est un peu autre.
Les choses tournaient mal et je ne pouvais m'en prendre qu'à moi-même. Après 68 jours sur G889, je continuais à me comporter comme un idiot, malgré ma bonne volonté. C'est tellement indifférent ici. Rien ne se passe jamais comme on l'avait prévu. G889 était censé être un paradis inhabité, prêt à nous accueillir. Mais depuis notre arrivée, on avait déjà rencontré de nombreux obstacles. Certains habitants étaient dangereux, d'autres intelligents. Nous allions de surprise en surprise. Certains êtres nous surpassaient sur bien des points. De nombreuses années auparavant, le Conseil avait décidé d'envoyer des prisonniers là-bas pour voir si on pouvait y survivre. Et maintenant, on sait que c'est possible. On a découvert que les Terriens avaient élevé une petite fille, orpheline, et réussi à guérir Ulysse, qui aurait dû mourir comme les autres enfants atteints du syndrome. Mais le profit que nous avons pu tirer de cette planète est faible. Des conflits politiques divisent notre groupe. Les humanoïdes Yel se laissent rattraper par leur passé d'anciens criminels et sombrent dans la folie. Pour d'autres, ces nouveaux horizons deviennent synonymes d'opportunités et font ressortir notre avidité et notre égoïsme. C'est certainement ce qui m'a poussé à vouloir acquérir la concession minière de cette fabuleuse pierre génératrice d'énergie que j'ai appelée la Morganite. J'avais envie de m'assurer un bel avenir, alors j'avais décidé de m'approprier 1 km² de cette planète grâce aux géologues. C'était une erreur monumentale. Non seulement j'ai pétrifié un terrien dans la roche, mais en plus j'ai perturbé l'équilibre de la planète. Et malheureusement, je ne peux pas revenir en arrière. Je ne possède pas le code pour libérer ce terrien. Le mal est fait et nous devons l'assumer. Quitte à le payer de notre vie. Notre sort est entre leurs mains.
On l'a bien compris, ce personnage-là est très cupide, mais est-ce que tous les personnages sont aussi stéréotypés que celui-là ?
Alors, ils sont tous mis dans des petites cases, en effet. Et alors, vous allez voir, il y a une manière de les organiser qui n'est pas du tout téléphonée. Vous allez... Alors, évidemment, les personnages, et c'est l'élément majeur, à partir du moment où on fait un huis clos, ça veut dire que l'intérêt du truc, c'est de voir comment ils se débrouillent les uns par rapport aux autres dans cette équipe. Il faut savoir, et ça c'est important, que normalement, les pilotes du vaisseau spatial devaient juste déposer les pionniers puis retourner. Donc on se retrouve face à des gens qui étaient préparés à arriver sur Terre et d'autres qui devaient normalement pas du tout y rester et être embarqués dans l'affaire. Et donc il y a déjà une première dissension qui se sent très fort entre les « colons intellectuels » entre guillemets et les pilotes un peu « ouvriers »,« classe ouvrière » entre guillemets aussi.
On notera tout de même qu'au niveau des personnages, c'est un peu bizarre la sensation qu'on a au fur et à mesure de regarder les épisodes parce que, bon, c'est un peu logique, mais on se concentre sur une dizaine de personnages. Il y en a d'autres qui gravitent derrière, mais on n'en parle jamais de ces gens-là, alors qu'ils font quand même partie de l'expédition.
Je dirais même pas 10, je dirais 8 si on compte les enfants, 9 avec l'androïde. Mais ce qui est intéressant, et c'est là que je vous disais, c'est vraiment pas du tout une organisation stéréotypée, c'est la création de couples, évidemment. Alors, on a Devon Adair, qui est la capitaine du projet Eden, qui est le chef. Sa motivation à elle, c'est de sauver son fils, parce que son fils est atteint de la maladie en question. Il s'appelle Ulysse, et je ne ferai aucune remarque sur le choix du prénom, l'Odyssée, bref. Grosse louche, hein, comme on dit. Donc, c'est pas du tout un hasard si elle veut développer ce projet, et on apprend d'ailleurs qu'elle a un lien privilégié avec un humain qui a déjà été envoyé sur cette Terre. Je n'explique pas plus, parce que, un, c'est compliqué, deux, vous avez sûrement tous envie de vous ruer sur les DVD, donc je vais vous laisser voir ça. C'est une fille d'Aristo qui a toujours été élevée dans une station, célibataire depuis la naissance de son fils, et donc complètement disponible.
Ben voyons.
Il faut savoir qu'elle est accompagnée de Yale, ça n'a rien à voir, mi-humain, mi-androïde. Les mi-humains, mi-androïdes sont des criminels qu'on a lobotomisés et qu'on a robotisés en partie et qui sont souvent des nounous ou des précepteurs. C'était le cas, Yale était son précepteur, il est devenu précepteur de son fils. Et évidemment, à partir d'un certain moment, ces androïdes foirent et retrouvent la mémoire. Et donc, je vous laisse le suspense. Est-ce que c'était vraiment un vrai criminel et est-ce qu'il va tuer tout le monde? Eh bien non, évidemment, enfin soit. Donc elle est là, un espèce de personnage secondaire qui lui colle tout le temps en basque. Mais ce qui est intéressant est le couple qu'elle forme petit à petit avec John Danziger, qui est le chef des pilotes. Enfin, au départ, c'est pas le chef, mais on se rend très vite compte que c'est un espèce de Mike Donovan, comme ça, vous voyez, dans V. Évidemment, c'est son opposé, et c'est pour ça qu'il se rapproche. Milieu défavorisé, qui a dû bosser dur. Il était limite esclave, parce qu'il faut savoir que dans le futur, on peut reprendre les dettes de ses parents et de ses grands-parents, qui s'aggravent évidemment au fur et à mesure, et que lui, donc, a dû travailler très jeune pour pouvoir repayer les dettes exponentielles de sa famille.
Un truc qui fait quand même pas mal écho à la crise qui nous a économique, qui nous a un peu secoué ces derniers temps. Je trouve ça assez intéressant quand même.
J'espère quand même qu'on va pas devoir m'envoyer sur une Terre 2 pour
payer les dettes,
voilà, payer les dettes de mes grands-parents. Il est donc le pilote. Il est lui veuf et il a une petite fille qui l'accompagne partout qui s'appelle Lou en français et Prue en anglais. Donc on voit deux célibataires avec des enfants qui sont tous les deux, l'une la chef des intellos, l'autre le chef des ouvriers. Lui il est pas réfléchi pour deux balles, c'est le mec qui tire avant de réfléchir. Et donc, on a effectivement deux personnages qui se détestent, s'engueulent tout le temps, mais on sait ce que ça donne.
Oui, c'est un grand classique hein, qui a été repris dans pas mal de sitcoms comme Notre Belle Famille. C'était vraiment tout à fait ce principe-là, quoi.
Voilà. Mais sauf que là, on les voit pas s'embrasser. La série n'a pas le temps.
Oh.
Donc, ça serait sûrement arrivé dans la saison 2, mais il n'y a pas eu de saison 2.
Quand en 22 épisodes, ils n'ont pas eu le temps de s'embrasser.
Non, voilà, parce que.
On est un peu asexué, bien sûr.
Non,
hein, dans
non,
cette...
c'est parce qu'on s'intéresse d'abord à un autre couple. J'y viens tout de suite. On pourrait donc les considérer comme le couple dirigeant, si vous voulez. Alors, deuxième couple, c'est Alonso, qui est le pilote. Il faut savoir qu'il a plus de 130 ans parce qu'il a fait tellement de voyages cryogénisés qu'en fait, évidemment, lui, il n'a pas vieilli, mais ça fait plus de 130 ans qu'il est né. Il en fait à peu près 35, un truc du genre.
Il passe la moitié de la série dans un plâtre, quand même.
Oui, c'est un rôle de composiste.
Je ne sais pas si c'est parce qu'il s'était cassé la figure avant la série ou si c'était fait exprès, mais c'est quand même relativement...
Alors l'intérêt principal et quasiment unique de ce personnage, c'est qu'il sait communiquer avec les terriens en rêve. Et donc, il est tout le temps l'interprète, si vous voulez. Donc, chaque fois qu'il faut parler aux terriens, pouf, il s'endort deux secondes, on voit le rêve et puis il se réveille. C'est
mais
toujours
ce n'est pas qu'un
pratique.
Acteur, c'est aussi un physique.
Non mais toi tu sais ça, mais moi je n'en sais rien.
Je ne suis pas le seul à savoir qui est Antonio Sabato Junior, si.
Non,
si,
moi,
si,
je
moi
sais
je
pas.
Sais. je sais, un acteur qui avait entre autres posé pour Calvin Klein et qui a joué dans pas mal de séries, en tout cas en apparition de, lors de quelques épisodes, notamment dans Lois et Clark.
Alors, en général, il est là pour sa plastique, il est pas vraiment là pour son jeu d'acteur.
On est d'accord, il a une plastique plutôt avantageuse.
Bah là, en l'occurrence, il est là pour faire effectivement le jeune premier amoureux de la médecin. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de médecin confirmé, mais il y avait une jeune médecin stagiaire qui les accompagne quand même. Finalement, c'est pas très grave parce qu'elle a un super gant qui, quand elle passe sur le corps, analyse tout de suite tous les symptômes et tout. Donc, t'as pas besoin d'être médecin quand t'as ce gant, fondamentalement. Tu vois, si tu sais lire. Mais enfin bon.
Mais si, parce que tu as besoin d'être médecin pour pouvoir jouer avec la génétique et créer des plantes.
Oui, ça c'est vrai. Non, ça c'est pas elle qui joue avec la génétique. En fait, ils ont des super. Ils ont des super petits containers que quand tu les. Quand tu les actives, ça fait une réaction en chaîne et donc ça développe la chose qu'il y a dedans. Là, en l'occurrence, ils croyaient que c'était une plante, mais c'était un cheval. Donc, en moins d'une heure, ils ont un cheval.
C'est pratique. Voilà.
Non, mais surtout, elle manipule effectivement l'ADN parce qu'elle essaye de s'injecter l'ADN d'Ulysse pour elle aussi pouvoir communiquer avec les terriens. Ça fonctionne pas très très bien. En fait, il faut savoir qu'elle est membre du conseil. Le conseil est un organe un peu gouvernemental. Évidemment, elle est là pour espionner le groupe.
C'est une traîtresse.
Et évidemment, elle devra choisir entre trahir le groupe ou trahir le conseil. Elle choisit de trahir le conseil puisqu'elle est donc amoureuse du pilote. Voilà. On pourrait dire que eux, c'est le couple romantique, si vous voulez. Le dernier couple, c'est Bess et Morgan Martin. Morgan, c'est celui qui était cupide et qui s'octroie 1 km² de terrain où il y a des mines sur cette terre. Ils sont mariés. Elle est très naïve, lui il est très lâche, très roublard. Ils sont en fait très émouvants parce qu'ils se serrent tout le temps les coudes. Enfin, très émouvants, oui. Bon, tout est relatif. Mais eux, par contre, ils sont l'élément comique un peu de cette série. C'est-à-dire que leur connerie est là pour un peu détendre l'atmosphère ou est là pour expliquer les petits soucis internes qui peuvent exister parmi les membres. Donc ça, c'est l'élément comique. Il faut savoir, comme tu le disais, qu'il y a effectivement autour d'eux d'autres, ils ne sont pas juste 6. Il y a d'abord les 2 enfants, je ne vous en parle pas parce que moi, les 2 enfants, j'ai trouvé que c'était des personnages vraiment pas intéressants. Ou tout victime parce qu'il est malade, mais du coup, il devient aussi l'enfant un peu messie parce qu'il est en lien avec les terriens, Ulysse, évidemment, parce que les terriens le guérissent. Il a mis les pieds sur cette nouvelle terre, pouf, il est guéri.
C'est un petit peu un côté d'une aussi, hein, ça.
Oui, ça c'est vrai. Et puis alors, de l'autre côté, il y a la fille qui, elle est un peu naïve, qui se fait manipuler un peu partout.
Légèrement
monde,
peste aussi, quand même.
Carrément peste. Donc je me suis dit, eux, ils sont vraiment pas intéressants. J'imagine que ça aurait pu devenir intéressant avec les saisons si ça avait continué, mais bon. Et effectivement, il y a tout un magma de personnages là derrière qui sont là pour faire joli.
Dont le robot, qui a une superbe démarche.
Oui, c'est vrai qu'ils ont un robot.
Ils ont un robot qui s'occupe de faire les tâches lourdes, mais alors il a une démarche à mourir de rire. On se dit que dans ces années où ils ont réussi à créer des vaisseaux spatiaux, avoir un robot qui marche comme ça, c'est pas du tout crédible. Il a une démarche très Kraftwerk.
Pire que R2D2 ou quoi.
Ah oui, pire.
Notre matériel de communication a été largué ici. Notre chargement aurait dû atterrir ici, mais les 15 autres nacelles spéciales peuvent être n'importe où.
Alors le problème est réglé. Il faut plus tarder. Dès que les véhicules seront prêts à fonctionner, nous prendrons la route. Mmh. On voulait être des pionniers, on va faire nos preuves. Nous allons établir un plan de route et rassembler le matériel nécessaire. Il nous faudrait des véhicules supplémentaires.
Excusez-moi.
Vous savez que c'est impossible.
Excusez-moi.
Oui, je sais.
Si j'ai bien compris, vous mettez sur pied une expédition.
Nous voulons rallier la nouvelle Pacifica où notre matériel de communication a été largué.
Vous permettez, je veux parler à votre chef. Soyez tranquille, je sais me tenir. Vous êtes encore plus dingue que je croyais. Vous n'avez pas le droit d'entraîner tout un groupe de gens dans une expédition aussi hasardeuse. La moitié d'entre nous n'était même pas censée mettre les pieds sur cette planète.
Et j'en suis tout à fait consciente. Seulement, il n'est pas question une seconde de renoncer maintenant.
Vous avez perdu la tête. On a atterri ici par accident. On a perdu une partie de notre cargaison. J'ai vu un homme se faire tuer par le premier animal qu'il a rencontré. Soyez réaliste. Votre projet ne peut pas se réaliser. La nouvelle Pacifica n'est plus la priorité.
Ça reste la priorité pour 248 familles dont c'est le seul espoir. Elles nous rejoindront dans 26 mois. Et je leur ai promis un avant-poste opérationnel.
C'est vous qui vous êtes engagé. C'est votre mission à vous. Nous, nous ne sommes que des employés.
Votre contrat indiquait qu'il y avait des risques et vous les avez acceptés. Vous avez été payé 4 fois le montant d'une cryogénisation. Et n'invoquez pas la mort de Broderick O'Neill. Cet homme était mon ami.
Je ne vous parle pas de contrat ou de tarifs ou de primes. Moi, je vous parle de survie. Vous voulez votre expédition ? Vous n'avez qu'à la soumettre au vote.
Merci de votre conseil, monsieur...
Danziger.
Ce dont j'ai réellement besoin, c'est d'un transrover qui fonctionne. Vous croyez que c'est dans vos cordes ?
Comme tu le disais tout à l'heure, Alex, on est face à une mythologie de l'Ouest. On est face à des pionniers, des colons, finalement.
Il manque juste que les charrettes, et encore.
Bah non, il manque pas les charrettes, ils les ont quasiment. Ils font, ils
tant qu'ils les retrouvent, hein, parce que bon, comme c'est un peu éparpillé.
Oui. Puis après, à partir du moment où ils ont trouvé un gros véhicule et un plus petit, ils mettent tout le matériel dessus, puis ils suivent à pied. Donc finalement, on a même ça. On est donc tout à fait dans la mythologie du western, et on dit toujours que la science-fiction... principalement américaine, c'est une ressuscité des westerns finalement et du mythe de la frontière avec tout ce que ça suppose de opposition entre civilisés et barbares, entre connus et inconnus, entre dangereux et inoffensifs, le bon sauvage, parce qu'il y a aussi une jeune fille qui a été élevée par des terriens qui a un peu ce côté bon sauvage, donc on est tout à fait dans des trucs qu'on reconnaît au premier coup d'œil, je vais dire. Maintenant, ce qui est intéressant aussi avec cette mythologie des pionniers, c'est donc ce côté huis clos et cette importance des relations au sein de l'équipe et des personnages qui tournent un peu court à mon avis parce que leurs comportements sont pas brossés assez loin et on reste un peu, comme je disais tout à l'heure, à des portraits un peu simplistes et un peu trop catégorisés que pour que ça marche réellement.
J'ai l'impression que ça ressemble trop à une série des années 70 ou 80 pour l'époque à laquelle elle a été créée, non ?
En fait, je pense que les éléments de départ étaient là, mais qu'ils les ont très mal exploités, je pense, les éléments qu'ils avaient, à
c'est
mon avis.
C'est un peu l'agence touriste dans l'espace.
Oui, mais, sauf qu'il n'y a pas Paracuda.
Oui, d'après ce que tu en dis et des images qu'on peut voir, ça s'éloigne quand même assez fort de la science-fiction, finalement. On n'a pas vraiment l'impression d'assister à une série de science-fiction comme Battlestar Galactica ou des choses du genre.
C'est tout à fait vrai ce que tu dis. Il y a juste des petits gadgets à certains moments. On utilise l'ADN quand ça sert bien, on utilise ce gant quand ça sert bien. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où ils sont sur cette Terre, c'est vraiment une série western. On a aussi d'autres thèmes dans cette série. Notamment, je voulais un peu brosser le complot gouvernemental, les politiciens un peu véreux, cette histoire de conseil qui n'a jamais dit à personne qu'ils avaient déjà envoyé des criminels là-bas ou des scientifiques, et donc ils ont l'impression que c'est la première mission qui va là alors qu'il y a déjà plein de gens, finalement c'est presque bondé comme territoire. On a aussi ce conseil qui continue à les espionner, à leur mettre des bâtons dans les roues, et en fait ça non plus, c'est pas assez développé pour que ça devienne véritablement intéressant. Et là par contre on sent qu'on est dans des années très paranoïaques qui ont donné X-Files d'un côté mais qui donnent un peu la même chose ici, et je me demande si d'ailleurs c'est pas une influence de l'autre. Voyant que les chiffres d'audience ne marchaient pas, on a rajouté cette élément, et finalement ils auraient peut-être mieux fait de rester à de l'heroic fantasy basique, à mon avis. Maintenant, on a toutes des questions éthiques que ça peut poser, par exemple le fait d'envoyer des pionniers sur une terre, les relations avec les autres peuples, le côté un peu barbarie, ça les dérange pas du tout par exemple de décimer les grains de leur, parce qu'ils ont pas l'air intelligents, mais on se rend bien compte qu'il y a quand même un minimum d'intelligence derrière ces gens-là. Alors ils développent pas ça hein, dans la série, mais moi, j'ai pas pu faire autrement que de faire des parallèles avec l'histoire américaine en tant que telle, évidemment.
Et est-ce qu'ils le critiquent particulièrement ou c'est juste, c'est normal finalement? Parce que là, on retrouve effectivement cette mentalité que l'histoire avec les Indiens, c'est quand même parallèle un petit peu.
Ouais. Ils le critiquent pas vraiment dans le sens où il y a les bons colons et les mauvais colons. Et donc, c'est facile parce qu'on est avec les bons colons. Et les bons colons, ils font peut-être des conneries de temps en temps sans faire exprès. Ils essayent de s'amender, ils essayent de discuter, etc. La plupart du temps, on va dire. Et puis tu as tous les criminels qui sont les mauvais. Donc on peut dire que finalement, on est des êtres humains de communication et on ne veut pas décimer les terriens, mais on veut vivre en harmonie. Donc voilà, ça évacue en fait.
Oui, en même temps, s'excuser en disant bah là, c'est les criminels, c'est quand même eux qui ont envoyé les criminels sur la Terre.
Voilà.
Donc ils sont quand même responsables malgré tout de cet état de fait.
Et ça, moi, ça me fait aussi très fort penser à l'histoire américaine, puisqu'on sait que les États-Unis ont servi de terre de bannissement des criminels anglais pendant tout un temps. Donc là, on ne peut pas faire autrement que de se dire « bah oui, ça c'est les États-Unis qui nous parlent d'eux-mêmes de nouveau ». Mais ils ne poussent pas, non, effectivement, le questionnement assez loin. Ils ne poussent rien assez loin, en fait. C'est la principale critique qu'on peut faire à cette série. Et alors, encore dans l'ordre des thématiques, on a la société future, c'est-à-dire les ordinateurs tout-puissants, évidemment, les guerres nucléaires, les guerres écologiques, évidemment, on joue avec des ADN, et tant pis pour les conséquences, évidemment, on a le côté voyage, cryogénéisation, ouais, c'est dur à dire ce truc, années-lumière, vaisseau, station spatiale, mais qui pose un peu question, mais on est donc dans la mythologie, on est clairement dans Terminator ici, enfin je veux dire, vous voyez la guerre nucléaire, les androïdes, on joue avec le cerveau des êtres humains. Mais de nouveau, C'est des choses qui arrivent par élément dans les épisodes, qui servent un épisode et l'intrigue d'un épisode, mais qui ne sont plus réexploitées après. Donc c'est toujours un peu embêtant.
Et alors il y a aussi ce côté qui fait que c'est une série et pas vraiment un feuilleton, puisque chaque épisode est vraiment indépendant. Il y a parfois un petit élément feuilletonisant dans certains épisodes, mais c'est très rare.
Bah, en fait, ils ont vraiment loupé cette histoire de « on recherche la nouvelle Pacifica », ça c'est clair. Ça aurait dû être un feuilleton, selon moi. Ça aurait dû se suivre, mais ça devient très vite quelque chose de très sériel, parce qu'effectivement, les éléments se suivent pas. Je sais pas si c'est une cause ou une conséquence de la perte d'audience, mais en tout cas, à mon avis, ça y a participé méchamment.
Oui, après, il n'y a pas eu assez d'épisodes aussi pour créer vraiment, parce que des fois, la série, même si on regarde un peu avec la distance, on voit qu'il y a quand même un suivi, une histoire qui se construit quand même derrière, malgré tout.
Mais là, je pense que ça aurait pu être le cas, mais je pense qu'ils ont vraiment fait faute face au milieu de la saison, par contre. Ça démarre sur des pionniers et ça se termine sur des complots, les ordinateurs et le conseil. Et à mon avis, c'était pas le meilleur à faire. Donc, ils auraient mieux fait d'exploiter plus à fond leurs personnages et ça aurait été plus riche.
D'autant qu'en plus d'un épisode à l'autre, les personnages sont totalement différents au niveau du caractère. Un jour, un personnage est un traître et le lendemain, c'est le meilleur ami du groupe. Et sans qu'il y ait aucune explication, on pourrait très bien mélanger les épisodes sans qu'on s'en rende compte finalement.
Presque pas, ouais, ça c'est vrai. Mais, et c'était mon dernier point, finalement tout ça amène à dire que c'est une série complètement inégale, avec des histoires qui fonctionnent sur maximum de 3 épisodes, et puis on passe à autre chose, avec des personnages qui font parfois pas tout à fait volte-face, mais en tout cas qui ont des tournants au moins à 45 ou 90 degrés, donc c'est vrai que c'est pas toujours facile à suivre, et puis surtout on s'y attache pas, parce que bah, vous voyez un couple qui se construit, et vous les voyez s'embrasser une fois, puis vous les voyez plus pendant 6 épisodes, ça donne pas envie de savoir ce qui leur arrive. Donc ça, ils ont vraiment loupé ce... Alors que leur mécanisme principal du départ, c'est le huis clos, donc ils auraient dû vraiment faire ça. Et puis, comme tu disais aussi, les terriens, à un moment, disparaissent. C'est-à-dire que on voit que l'important au début, c'est le lien avec les terriens, l'harmonie avec la planète, autrement la planète va les rejeter, donc ne va pas guérir les enfants, puis pouf, ça disparaît. C'est un peu bizarre.
Il faut dire, en même temps, qu'un personnage qui, comme dialogue, n'a que gueux sur la totalité de la série, c'est un peu difficile à exploiter sur la longueur.
Donc tu es un peu vache, à mon avis, il y avait moyen de s'en sortir. Bon, bref. Alors, il faut savoir que ça se termine carrément sur un truc bizarroïde. On sent la fin de saison cliffhanger, mais ça n'a pas marché, parce que ça n'a pas été renouvelé. Simplement, ils sont en très très grand danger, et un membre s'évanouit, et pourrait en fait, c'est sous-entendu, souffrir d'une maladie qui est vraiment due à la planète, et donc la planète pourrait vraiment, à un moment, les rejeter. Voilà, on n'en saura pas plus.
Retrouvez aux frontières des séries sur le web www.afds.tv.